c'est le journal avec Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité, la vente de masques dès lundi dans les grandes surfaces. Les professionnels de santé qui ont dû gérer la pénurie s'étonnent d'une telle disponibilité en si peu de temps. Le reste de l'actualité, Laurence.
Et si on repensait sa vie, les spécialistes du monde du travail constatent qu'un certain nombre de Français veulent se réorienter professionnellement. Aux États-Unis, le feu vert de l'Agence américaine du médicament pour l'antiviral Remdesivir. Le monde du sport, post-Covid, le projet JO 2024 pourrait être revu.
Notre invité à 8h20 sur France Inter, la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland. Comment prépare-t-elle le déconfinement le 11 mai? Et puis vos questions pour la maire de Nantes, Johanna Roland, au 01 45 24 7000. Dès maintenant, le standard est à votre disposition.
France Inter. Des millions de masques seront vendus dès lundi en grande surface. Il s'agit maintenant d'équiper tous les Français, mais les professionnels de santé qui ont dû faire face à la pénurie ces dernières semaines jugent cette situation écœurante, parfois consternante, eux qui en ont si cruellement manqué. Sept ordres de professions de santé ont signé une tribune pour dénoncer cette apparition miraculeuse de millions de masques. Le directeur général de la santé s'est efforcé hier à calmer le jeu lors de son point presse. Véronique Julia.
Si les grandes enseignes promettent des dizaines de millions de masques à la vente, c'est qu'elles ont dû constituer des stocks ces dernières semaines. Dès lors, pourquoi l'État ne les a-t-il pas réquisitionnés pour les soignants? Ou pourquoi ne s'apprête-t-il pas à le faire? S'interrogent les professionnels de santé. Ils rappellent que de leur côté, la distribution reste particulièrement parcimonieuse. Jérôme Marty préside le syndicat de médecins UFML.
On est toujours livré avec des masques périmés pour certains d'entre nous. Et on reçoit toujours une dotation de 18 masques par semaine. C'est relativement irrégulier. Visiblement, le privé se débrouille mieux que l'État, puisqu'en quelques semaines, il a su trouver 440 millions de masques.
Il n'y a pas eu de stock caché de masques de la part de la grande distribution, a répondu hier soir le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Quant aux réquisitions, l'État fait ce qu'il doit faire.
Je le rappelle, la priorité est donnée aux professionnels de santé et donc il y a un volume restreint, un partage éventuel de la commande lorsque l'État considère qu'il y a une partie qui doit être préemptée, entre guillemets, pour les professionnels de santé.
Autre motif de grogne des soignants, le prix de vente de ces masques chirurgicaux, il a été plafonné par l'État à 95 centimes l'unité. En temps normal, ces masques valent 10 fois moins, rappelle Jérôme Marty. Ils tournent autour de 8 centimes. À la question « près d'un euro pour un masque n'est-il pas cher payé ?», Jérôme Salomon a reconnu hier soir qu'un prix plafond est un plafond, mais pas un juste prix.
Véronique Julia, dis-moi quelle est ta couleur et je te dirai qui tu es. La nouvelle carte du coronavirus a été publiée par le ministère de la Santé, des départements en rouge, orange et vert. Avec ce découpage, on connaîtra les contraintes pour les uns et pour les autres. Cette carte sera remise à jour quotidiennement à partir du 11 mai. Dernière photographie de la France. Un tiers du pays est classé rouge. Le virus circule essentiellement en Île-de-France et dans le quart nord-est du pays. Cette carte a été corrigée par rapport à sa dernière version. 9 départements ont été reclassés après des erreurs dans la remontée des données. Sophie Bécherel.
9 départements au total ont fait l'objet d'un reclassement, c'est-à-dire d'un changement de couleur. Pour la plupart, le ciel s'est éclairci. Ils sont passés du rouge ou du orange au vert. C'est le cas du Lot, de la Dordogne, de la Haute-Corse, de la Nièvre, de l'Oise et du Tarn. Les erreurs de statistiques ont été corrigées. Rappelons que 2 critères sont pris en compte à ce jour. La tension dans les services de réanimation. Pour être en vert, il faut que 6 lits sur 10 maximum soient occupés, histoire de pouvoir anticiper un rebond épidémique. Et le deuxième critère pris en compte, c'est la circulation active du virus, évaluée par le nombre d'admissions aux urgences. Désormais, la carte de France se divise en 3 zones. En vert, la façade ouest, d'une ligne allant de Cherbourg à Marseille. En rouge, le quart nord-est du pays, avec les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté. Entre les deux, une zone orange. Des départements qui peuvent basculer d'ici le 11 mai d'un côté ou de l'autre. L'embellie viendra du civisme, car le confinement porte ses fruits. Depuis 2 semaines, les indicateurs de Santé publique France sont tous orientés à la baisse. Chaque jour, il y a moins de personnes infectées, moins d'hospitalisations et moins de décès.
Sophie Bécherel, un conseil des ministres se tiendra tout à l'heure à 11h30. Au menu, un projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Ce projet de loi qui sera débattu dès lundi au Sénat aborde des questions sensibles comme la mise à l'isolement des personnes testées positives ou encore la création d'un fichier médical. La majorité des écoles maternelles et primaires rouvriront le 11 mai. C'est une interview de Jean-Michel Blanquer dans le Figaro. Pourtant, les conditions de retour en classe restent l'une des inconnues de la levée du confinement, car bon nombre de maires s'inquiètent de la possible mise en cause de leur responsabilité pénale en cas de contamination d'enfants et ils préfèrent ne pas rouvrir les écoles. À Paris, la réouverture de ces écoles sera réservée au moins dans un premier temps à un public prioritaire, c'est-à-dire aux enfants de certaines professions et aux élèves décrocheurs. Depuis le 17 mars, la vie s'est comme arrêtée pour la majeure partie des Français. Entre chômage partiel et télétravail, le confinement nous invite à nous questionner sur notre job et plus généralement sur notre vie professionnelle. Alors pour certains, c'est l'occasion de s'interroger sur ce travail, d'imaginer pourquoi pas un changement de vie, alors que beaucoup de salariés s'inquiètent de retrouver leur emploi après la sortie de crise. D'autres, Fabien Cazot, se prennent à rêver de réorientation professionnelle.
Pour beaucoup de salariés, l'heure est aux remises en question. Mon emploi actuel survivra-t-il à la crise? S'il n'y survit pas, comment me réorienter? Comment changer de vie, se demandent ceux qui rêvent au monde d'après. Qu'il soit souhaité ou subi, le changement de vie professionnelle est une préoccupation qui monte. C'est ce que constate le président fondateur du cabinet Technologia, spécialiste dans l'amélioration des conditions de travail, Jean-Claude Delgène.
Ces périodes sont propices à une réflexion, à une introspection. Ceux qui pourront peut-être changer à la suite de cette déflagration sont ceux qui ont les moyens de dire non à la vie antérieure, donc les moyens y compris financiers, les moyens intellectuels. Je le vois, moi, par exemple, des gens qui me disent « Moi, je vais ouvrir un bar à Champagne, je vais ouvrir une maison d'hôtes dans les Pyrénées. » Enfin, la crise sanitaire a permis la résurgence d'aspirations enfouies, en fait, parfois niées.
Parmi les professions les plus touchées par ces envies de changement, selon les enquêtes, les avocats ou encore des enseignants qui disent y réfléchir pour les années qui viennent, le temps de mettre un peu d'argent de côté avant de se lancer et d'y voir plus clair sur le temps que durera la crise.
Fabien Cazot, il réapparaît en public après 3 semaines de rumeurs sur sa santé. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a participé à l'inauguration d'une usine d'engrais. Un antiviral autorisé en urgence aux États-Unis, l'agence américaine du médicament a donner son feu vert au Remdesivir. Cela permettra aux hôpitaux américains de le prescrire aux patients gravement atteints, Grégory Phillips.
Il y a 3 jours, dans le bureau ovale, le docteur Anthony Fauci, qui dirige l'Institut américain des maladies infectieuses, se montrait certes prudent, mais aussi optimiste. L'épidémiologiste évoquait alors les résultats prometteurs d'un essai clinique mené sur plus d'un millier de personnes. Les patients qui ont reçu du Remdesivir ont vu une accélération de leur temps de guérison, 11 jours contre 15, et le taux de mortalité a aussi légèrement diminué. En conséquence, la Food and Drug Administration autorise en urgence l'usage de cet antiviral qui jusqu'ici n'a jamais été utilisé. Ce sont les autorités fédérales qui vont encadrer la distribution de cette molécule. Le Remdesivir sera administré aux patients les plus graves, ceux placés sous respirateur et dans les hôpitaux des villes américaines les plus touchées. Il y a un mois, la FDA avait pareillement en urgence autorisé le recours à la chloroquine pour quelques jours après émettre des mises en garde en raison de possibles effets secondaires sur le cœur des patients. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Moins de 2 semaines après la pire tuerie de l'histoire du Canada, le Premier ministre Justin Trudeau interdit les armes d'assaut de type militaire. L'annonce survient 12 jours après qu'un homme a tué 22 personnes en Nouvelle-Écosse.
Laurence, quel monde d'après pour le secteur du sport?
Oui, d'après Covid. Le week-end dernier, Guy Drut, l'ancien champion olympique et ancien ministre des Sports, critiquait le projet pour Paris 2024. Ce projet est à ses yeux devenu aujourd'hui obsolète, dépassé, déconnecté de la réalité. Thomas Barr a son tour publié une lettre adressée à la famille olympique, aux fédérations internationales et aux athlètes. Le président du CIO, le comité international olympique, appelle à réfléchir à l'avenir. Guillaume Batin.
Dans ce texte de 8 pages, baptisé Olympisme et coronavirus, Thomas Barr ouvre la porte à, je cite, un débat approfondi face aux défis auxquels nous sommes confrontés et au potentiel des opportunités qui s'offrent à nous. Il appelle à changer le monde qui fonctionnait jusque-là sur un algorithme basé sur les données du passé et que la crise que l'on traverse ne fait qu'illustrer la souffrance de certaines populations et les inégalités entre les peuples face à la maladie. Il rappelle aussi que le sport est au service d'une société en bonne santé, mais également le meilleur outil pour unir les populations au-delà des différences sociales, politiques, culturelles et religieuses. Un outil important également pour sortir de la crise économique. En résumé, le sport ne doit pas être considéré selon lui comme un frein à la sortie de crise, mais comme une solution. Le patron du CIO invite toutes les bonnes volontés à participer au débat sur le monde de demain. Une adresse mail a été ouverte, olympisme.corona@olympique.org.
Guillaume Batin, le 6-9 continue avec Pierre Veil.
Et c'était le journal de Laurence Thomas. Le temps aujourd'hui en ce samedi.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Et avec nous Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, de la pluie sur la partie centrale du pays.
C'est vrai, des précipitations souvent concentrées entre le bassin d'Arcachon, le Dauphiné, la Franche-Comté et le sud de la Bretagne. Des précipitations plus fortes sur le relief, en particulier sur le nord des Alpes, avec une vigilance orange forte pluie pour les Deux-Savoie et pour l'Isère. Doublé en orange cru pour le département de la Savoie, également celui de l'Isère. Plus au nord, un ciel parfois hésitant, porteur d'ondées notamment ce matin. Et puis sur les régions méridionales, des Pyrénées au pourtour méditerranéen, temps sec, généralement dégagé, mais avec un fort vent d'ouest jusqu'à 120 km à l'heure sur le Cap Corse. Les températures, avant de remonter un peu demain, vont généralement stationner aujourd'hui au même niveau qu'hier.